France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Alpes de Haute-Provence sont à l'honneur toute cette semaine dans les carnets. Au programme aujourd'hui, des livres et de la danse. Je passe d'abord un coup de fil à un libraire itinérant. Il promène ses bouquins dans un camion autour de Barcelonnette. Et ensuite, on s'intéresse à une compagnie de danse contemporaine à Fort-Calquier qui a le chic pour danser là où on ne l'attend pas. Dans les deux cas, du mouvement salutaire. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
J'ai une petite passion personnelle pour les noms de librairies. Je me dis parfois que j'aimerais en ouvrir une juste pour avoir le plaisir de la baptiser. Eh bien, voici une boutique qui porte un nom superbe. Elle s'appelle Imaginer. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour.
Alors, je précise d'emblée que vous êtes un homonyme hein, de l'autre Olivier Duhamel, le juriste accusé d'inceste. Rien à voir. Vous étiez, vous, journaliste dans une vie précédente, Olivier, à France Culture notamment et à France 3. Et vous êtes désormais libraire à Barcelonnette. La boutique s'appelait déjà Imaginer quand vous l'avez achetée. Le nom vous a séduit, vous aussi?
Oui, j'ai décidé de le garder parce qu'en fait, je trouvais que c'était... Ça m'allait bien, en fait. Imaginer, c'est toujours ce qu'on m'avait des fois reproché ou qu'on avait aimé chez moi. C'était mon côté un peu perché, et donc ça m'allait. Alors une librairie de montagne perchée qui s'appelait Imaginer, il n'y avait pas raison de changer, quoi.
Votre particularité, c'est que vous êtes aussi libraire ambulant. Comment est né ce projet de librairie itinérante?
Alors en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on se promène évidemment dans le coin, et puis comme on est un peu au bout du bout du bout du bout de la région, quand on veut sortir, eh ben, il faut prendre des chemins et des routes, et on croise évidemment tout le reste du territoire. La Vallée du Bail, elle est vraiment, c'est juste à côté de l'Italie, la frontière est là, et donc pour y aller, il faut y aller, quoi. Et en se promenant dans la région, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de villages qui étaient sympas, qui étaient peuplés, dans lesquels il y avait de la vie, mais qu'il n'y avait pas de librairie. Et il y avait une librairie à Digne, une librairie, enfin plusieurs à Digne, plusieurs à Gap. Et puis après, il y avait la nôtre. Et quand on se trouvait du côté de la Blanche, notamment, pour aller trouver un livre dans une librairie, pour rencontrer un livre, il faut faire une heure de route minimum, ce qui fait que les gens avaient tendance à aller surtout sur Internet.
Donc la vallée de la Blanche était une zone blanche en termes de livres?
Exactement. Alors une zone blanche en termes de livres, il y a plein de choses sympas, plein de choses intéressantes dans la Blanche. Mais c'est vrai qu'au niveau des livres, c'était un peu maigre.
Votre camion s'appelle l'Ambulante. À quoi ressemble cette librairie itinérante?
Alors c'est un petit camion. Au départ, quand on l'a acheté, ça ressemblait plus à un camion de déménagement ou un camion de boucherie. Donc au départ, quand on a fait les premières tournées, on appelle ça des tournées, c'était assez étonnant parce que les gens des fois comprenaient pas trop ce que c'était que ce truc garé sur la place avec une banderole que j'avais bricolée avec écrit Imaginer dessus. Donc ça faisait rigoler un peu tout le monde. Et puis du coup, les gens ils ont participé à l'aventure, ils ont vu le camion aménagé. Et puis on a surtout demandé à un artiste local qui s'appelle Tom C, qui est aussi prof à l'école artistique de Lubail, qui est une de nos partenaires, de nous faire des peintures à la main, pas des décalcomanies, pour donner envie aux gens en fait de rentrer dans ce camion, puis qui, c'est tout bête, mais pour qu'ils comprennent ce que c'est vraiment, quoi. Pas seulement un camion de boucherie, même si j'aime bien les boucheries.
Et comment ça marche alors? Est-ce que vous vendez beaucoup de bouquins?
On vend, ça dépend des fois. La dernière fois, quand j'étais à Seine-les-Alpes, à midi, j'avais fait 1,50€ de chiffre d'affaires. C'est maigre. Mais bon, c'était pas de bol. Ouais, il y avait eu de la neige. Les gens qui sont autour de Seine, qui habitent dans les coins reculés un peu de montagne, sont pas venus. Mais non. En fait, on a commencé en 2024. Donc maintenant, on a quand même des endroits où on a nos habitués. On est devenu leur librairie et ils passent leurs commandes. Ils prennent sur place, ils écoutent mes conseils. Et puis c'est devenu, pour certains, c'est un peu des amis ou des copains. Et donc ça, c'est agréable. Économiquement, c'est pas forcément un truc énorme, mais je pense que c'est justifié.
Et puis, vous publiez aussi un journal, Olivier Duhamel, sans doute par peur de vous ennuyer, une gazette mensuelle qui s'appelle « Des mots et des liens ». Quelle est la raison d'être de ce journal?
En fait, oui, alors comme vous dites, j'ai toujours peur de m'ennuyer, donc il faut bien trouver quelque chose. Non, ça, c'est parti d'un constat, justement, dans le cadre de l'Ambulante. On se rendait compte que c'était difficile de communiquer avec les gens. Déjà, leur communiquer nous tournait. Comment est-ce qu'on va annoncer qu'on vient là? Donc, il y avait déjà cette difficulté-là. On se rendait bien compte que c'était pas forcément facile. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui étaient au courant de notre passage ou qui étaient au courant des événements qui se passaient dans les vallées, en fait, l'étaient souvent soit par affichage, soit par bouche à oreille. Les réseaux sociaux, finalement, ça arrive, ça sert, ça existe, mais c'est pas forcément ce qui était mis en... on va dire devant. Et donc voilà, c'était l'idée, c'était de permettre aux gens de savoir ce qui se passe le week-end, mais sans attendre le lundi matin, puisque c'est trop tard. Donc notre journal, en fait, il y a à peu près un tiers qui est des contributions d'associations, des gens qui savent écrire ou pas, et dans ces cas-là, bon, on les aide. Et puis, ils peuvent exprimer ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'objet social de leur association.
C'est un journal gratuit qui est tiré à 2200 exemplaires. Est-ce que vous le financez grâce à la pub?
Ouais, c'est la pub des commerçants. Alors moi, j'ai des commerçants, des entrepreneurs. Je leur dis toujours, vous êtes des partenaires et souvent, ils nous aident pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ont envie de nous aider, ils adhèrent à l'idée. Et puis la deuxième, c'est que ça peut aussi leur apporter un peu de notoriété, de communiquer sur ce qu'ils font. Donc voilà.
À quel point ces trois activités sont-elles liées, Olivier? La librairie imaginée à Barcelonnette, l'ambulante en Vallée de la Blanche et ce journal des mots et des liens. Il y a du lien justement entre les trois?
Alors c'est un microcosme en fait, c'est un microcosme économique. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. La librairie en fait accueille les bureaux du journal. Il utilise aussi beaucoup le camion, puisqu'en fait, ce camion ambulant, certes, vend des livres, mais souvent, il sert de salle de rédaction itinérante. Les gens viennent pour parler d'un article qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est un microcosme.
C'est voilà. Un monde, tout simplement.
Ah oui, c'est un monde. J'ai créé l'industrie culturelle des vallées du Bail, de la Blanche et de la Durance.
Question que je pose toujours aux libraires dans les carnets. Est-ce que vous avez un coup de cœur à nous proposer, un conseil de lecture, Olivier?
Alors moi, le dernier bouquin que j'ai lu qui m'a vraiment, vraiment touché, c'était « Haute folie » d'Antoine Vautère, c'est chez Gallimard, à La Blanche. Et c'est en fait, ça raconte, pour faire court, comment on se retrouve dans la difficulté quand on nous a tout caché. En fait, c'est l'histoire d'un mec, il a eu une vie heureuse, on va dire, il a une vie plutôt heureuse. On lui a tout caché parce qu'on se disait que comme ça, il serait heureux. En fait, si on lui disait rien des difficultés de ses parents, de leur décès, de tout ce qui s'était passé, il va être heureux. Et ben en fait, il va pas être heureux parce qu'on lui a tout caché. Et c'est un livre extrêmement bien écrit, mais vraiment très très bien écrit, très juste, très beau, très lumineux, même si il est pas forcément super drôle. Donc voilà, c'est mon dernier coup de cœur.
Haute folie d'Antoine Vautère, c'est donc à lire chez Gallimard, le conseil du libraire de Barcelonnette. Et je rappelle bien sûr le nom de votre librairie, Olivier. Imaginez. Merci beaucoup, Olivier Duhamel.
Merci.
Et à bientôt.
Et à bientôt.
France Inter. Carnet de campagne.
La parole, à présent, est à une chorégraphe qui veut devenir montagne. Bonjour Valérie Costa.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une compagnie de danse contemporaine à Fort-Calquier, la compagnie 2B2B. Devenir montagne, c'est le nom de la création sur laquelle vous travaillez en ce moment. Votre particularité, c'est que vous investissez des espaces où l'on n'a pas l'habitude de voir de la danse. Devenir montagne va se déployer à l'extérieur, c'est ça ?
Oui, c'est ça, dans des extérieurs, en tout cas, où des fois les extérieurs, c'est aussi ce qu'on appelle nous des espaces non dédiés. Donc ça peut être à l'intérieur, mais en effet là où on n'attend pas du tout à ce qu'il y ait un spectacle de danse. Par exemple dans un camping ou dans l'entrée d'une maison de parc, des espaces comme ça où d'habitude il n'y a pas de spectacle.
Il paraît que vous avez déjà imaginé de la danse dans une salle d'attente.
Oui, on a développé ça. Dans les salles d'attente, c'était à l'hôpital où on avait fait une résidence à l'intérieur d'un hôpital et sur l'espace d'entrée et de sortie. Et on s'était interrogé à comment le mouvement pouvait venir soutenir, transmettre des émotions, des états où les gens d'habitude ne font qu'attendre et comment ça pouvait permettre d'avoir peut-être une autre approche de la création chorégraphique.
Et ça rend assurément la danse contemporaine plus accessible, plus proche.
En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire parce que rien que le fait de nous voir travailler dans des espaces comme ça, les personnes se sentent plus à même de venir nous parler, de comprendre, d'échanger avec nous. Et rapidement, le fait de donner des clés permet une autre approche. Et après, on a la surprise que les gens reviennent voir une fois que c'est terminé ou s'ils ne peuvent pas, en tout cas, gardent le lien. Oui.
Pourquoi ce nom pour votre compagnie, 2B2B ? Ça se prononce peut-être à l'anglaise, hein, 2B2B ?
Non, on reste bien. 2B2B, on a essayé hein, plusieurs fois, mais non. Ça a été un raccourci de la compagnie qui maintenant a 20 ans, donc elle a pas mal d'existence. Et au tout début, elle s'appelait De Briques et De Broc parce que c'était déjà l'idée de fabriquer avec ce qu'on avait sous la main, donc avec parfois et souvent rien. Et De Briques et De Broc était trop long, tout le monde nous disait 2B2B, donc on a fini par l'appeler 2B2B.
Autre particularité de votre travail, vous avez à cœur de mêler le soin et la danse. Vous parliez à l'instant de l'hôpital. Comment procédez-vous, notamment dans les EHPAD ?
Alors oui, là c'est absolument d'actualité puisque cette création en 2026 Devenir Montagne, on a justement commencé dans une EHPAD à Castellane qui est un village dans le Haut-Verdon où on avait été accueillis juste à la sortie du confinement parce qu'en fait ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire c'est que le fait de travailler dehors nous avait permis nous de continuer à donner des représentations à l'extérieur et les résidents nous voyaient depuis l'intérieur de l'EHPAD donc on s'était, on s'était appuyé là-dessus et puis ensuite on est re-rentré dans les EHPAD et là on a commencé à plutôt aborder la transmission, le geste et la mobilité, tout ce que l'on peut vulgairement dire enseigner en danse, comment on pouvait le vivre avec d'autres corps, avec des corps âgés, des corps fragiles et qu'est-ce que nous aussi ça nous apportait de travailler avec ces corps-là. Et là on est rentré dans des rencontres très fortes et des moments forts qui nous permettent maintenant quand on est en résidence, donc dans une EHPAD comme là c'était le cas encore la semaine dernière, où on est à la fois, on travaille à vue dans les espaces de collectivité, donc ça crée aussi de nombreux échanges. Et l'après-midi, on est sur des ateliers où on questionne, on transmet. Donc c'est vraiment, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est dans une pratique et dans une culture très horizontale où on prend et on reçoit énormément et ça nous construit ensemble.
C'est vraiment différent hein, quand un spectacle est le fruit d'une résidence, d'un partage avec des gens sur place, ça crée un lien différent, j'imagine, avec le public.
Alors oui, moi j'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai plus créé de spectacle en studio que bon la différence est peut-être plus difficile pour moi à aborder, mais en tout cas ce que je peux vivre, c'est que ça m'emmène toujours dans des endroits que je n'ai pas prédéterminés ou préécrits, ça ouvre d'autres portes et ça pour moi c'est vraiment intéressant dans ma manière, dans mon rapport en tout cas à la création.
Vous travaillez aussi avec des scolaires, Valérie, est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter avec des enfants ou des ados ?
Alors oui, là on est plutôt dans les ados, on intervient beaucoup dans le cadre des actions éducatives soutenues par le département, donc c'est vraiment à destination des collégiens, pour qui la danse contemporaine reste encore un objet assez éloigné de leur fantasme, de leur réalité. Hein. Et du coup, c'était l'année dernière, on était dans le fort de Seine-les-Alpes, c'était l'idée de faire avec leur patrimoine à ce collège qui est à Seine-les-Alpes, donc on est monté au fort, voilà, à plusieurs reprises, et c'était déjà pas facile d'y aller, mais alors en plus, pour faire de la danse, c'était assez compliqué. Et puis, il y a un jeune homme à la fin qui m'a dit « Non, mais en fait, moi, la danse, j'aime pas, mais ça va. » Et moi, je me suis dit « Bon, là, ça va, je pense qu'on a gagné tous les deux. » Et voilà, et c'est assez touchant de voir par quel chemin, au sens propre et figuré, on arrive à se mettre en mouvement ensemble et accéder, à essayer de changer un petit peu les choses parce que la danse contemporaine a encore, ou la danse tout court, a une représentation assez genrée aussi sur notre territoire ou en tout cas en territoire rural. Et du coup, on essaie de combattre ça et de rendre possible qu'un jeune garçon, une jeune femme, un homme, une femme puisse accéder au mouvement en toute liberté.
Votre compagnie fonctionne notamment grâce à des subventions publiques et des appels à projets. Les temps sont-ils durs en la matière ?
Oui, on va pas se le gager, c'est pas un scoop. Oui, c'est dur parce qu'en fait, moi, enfin, en tout cas, depuis 20 ans, 30 ans que j'exerce le métier, 20 ans sur la compagnie, ce que je peux voir pour nous, c'est une mise en fragilité de plus en plus récurrente de chaque projet où on est, pour s'assurer qu'un projet soit vraiment solide, c'est jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, on se dit, ah ok, là on peut y aller. Donc en fait, on est toujours sur des espaces très fragiles et mouvants où on doit s'adapter en permanence. Donc oui, on est un peu sur la brèche aujourd'hui, quoi.
2B, c'est donc à Fort-Calquier dans les Alpes des Hautes-Provence. Un grand merci Valérie Costa.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Bonne journée à vous, au revoir.